Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis le père Pierre-Marie Castaigneau. J'appartiens aux serviteurs de Jésus et de Marie. Je suis venu avec père Bernard qui s'occupe de la librairie. Du coup, ça va faire une trentaine d'années que je suis dans la communauté. Et puis, depuis à peu près 20 ans, peut-être un peu moins de 20 ans, j'ai commencé à m'inscrire dans tout ce qui est préparation au mariage. Ça s'est fait un peu de façon un peu providentielle, un peu selon les rencontres. C'est vrai qu'une rencontre qui m'a beaucoup marqué, c'est un des professeurs que j'avais en philosophie à l'IPC, peut-être que vous connaissez cet institut de philosophie comparée, qui ensuite s'est formé dans tout ce qui est l'accompagnement de couple. Je me suis formé avec cette personne-là. Et puis, plus récemment, je termine une formation de thérapeute de couple. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, mon ministère, pratiquement, c'est les préparations au mariage. J'accompagne de façon individuelle 30 à 40 couples par an. Et puis, des prédications de retraite, retraite préparation au mariage. Et puis, il y a 4 ans, j'ai mis en place des retraites discernement. Alors pourquoi c'est la question des retraites discernement, mariage et discernement? Autant des retraites discernement, il y en a pas mal qui existent, et des livres de qualité, et des choses de qualité sur le discernement de l'appel de Dieu, etc., de façon générale. Mais le discernement, est-ce lui, est-ce elle? Et c'est vraiment le deuxième ouvrage que j'ai écrit, et sur cette question-là, précise comment est-ce que, quelles clés on peut avoir pour discerner si, entre guillemets, c'est la bonne personne avec laquelle on choisit de faire route commune dans le mariage. Et là-dessus, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de livres sur cette question particulière. Sur le discernement de sa vocation entre vie consacrée et vie mariage, ou entre vie religieuse, etc., bon, il y a beaucoup de choses, mais là-dessus, non. Et donc, j'ai mis en place il y a maintenant, ça va faire en octobre 2014, des retraites vers le discernement, mariage et discernement. Et c'est vrai que ça a été une surprise de voir que il y a énormément de demandes, en tout cas, de ceux qui s'inscrivent dans un mariage à l'église, bon, c'est pas tout le monde déjà, premièrement, et deuxièmement, de personnes qui veulent vraiment, en amont des fiançailles, qui veulent avoir des clés pour discerner. Parce que ma conviction est la suivante, c'est que, dans ces années de préparation au mariage, je me suis rendu compte qu'au fond, il manquait une étape. Sur le papier, les fiançailles restent un lieu de discernement encore, voilà, même après les fiançailles, l'Église dit, voilà, vous êtes encore en discernement, vous pouvez arrêter à tout moment, etc., etc. Bon, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les fiançailles, surtout dans des familles, je vais dire, un peu traditionnelles, classiques, les fiançailles, c'est déjà, on met les jeunes dans le toboggan, et ensuite, comme ça, ça descend, et ils arrivent sur le mariage, comme ça, on splatch, comme ça, bon, ça fera un peu comme ça. Alors, on splatch, on espère que c'est plus ou moins en douceur, mais bon, pour sortir du toboggan, il en faut. Il en faut, d'autant plus si vous avez versé des arts. On peut éventuellement être un petit peu tendu quand on a déjà payé la moitié du dentiste, la moitié du DJ, la moitié du machin, etc. Mais bon, la réalité, du coup, je me suis dit, il faut quelque chose en amont. Et d'autant plus que dans la vie religieuse sacerdotale, on a multiplié les étapes. On a multiplié les étapes parce que, bon, alors c'est vrai que c'est un appel particulier, c'est la question du célibat consacré, etc., la maturité affective, tout ça, bah, du coup, les supérieurs de séminaires et les supérieurs religieux ont voulu vérifier, avant l'engagement définitif, la validité, la maturité du candidat. Mais je trouve que pour le mariage, qui est un engagement à vie, il n'y a pas d'étape antérieure. Il n'y a pas d'étape, on débarque directement sur le... Il y a une préparation au mariage, l'Église a fait beaucoup d'efforts pour tout ce qui est préparation au mariage depuis, je veux dire, 20-30 ans. À ma génération, là, je vais avoir 60 ans, mais il y avait un peu de préparation au mariage, mais très peu. Et maman, qui a 86 ans, a eu zéro préparation au mariage. Ou c'était la cérémonie, point barre. C'était même pas un sujet, quoi. Donc, du coup, c'est intéressant de voir que l'Église, quand même, face à la quantité de séparation, etc., s'est dit, ben, il faut mettre. Mais quand on est en préparation au mariage, on est déjà avec une date de mariage, etc. Il faut quelque chose en amont. Il faut quelque chose en amont où les jeunes puissent discerner en toute discrétion, sans avoir informé les parents. De fait, ils peuvent venir seuls à cette retraite ou à deux. Alors qu'en général, une retraite préparation au mariage, c'est mieux de venir à deux. S'ils viennent seuls, c'est un petit peu préoccupant. Mais du coup, ça peut être voilà, petit warning qui s'allume. Mais du coup, c'est retraite discernement. Et donc, j'ai vu que ça commençait. J'ai fait deux d'abord, puis ensuite quatre, puis à l'abbaye, puis ensuite, je prêche aux béatitudes à Noël-le-Fuselier, je fais six. Il y a une retraite qui existe chez les jésuites à Clamart, SUISL, etc. Mais il y a relativement peu de propositions, alors que dans la préparation au mariage, il y a beaucoup de choses qui existent et de qualité. Et du coup, et j'ai vu que ça fait vraiment ça. Ça répondait à un vrai appel et donner, éclairer l'intelligence, donner, voilà. Donc, j'ai écrit ce deuxième livre, après le premier sur la préparation au mariage, le deuxième livre qui est sur la question du discernement. Mais ce soir, ce qui vous amène, c'est, d'après je vois l'âge, vous n'êtes pas encore, vous n'êtes plus en discernement, semble-t-il, en tout cas ceux qui sont en couple, le prochain livre, ce sera « Malgré lui, malgré elle ». C'est ça. Donc, mais la question du rôle des parents, parents ou grands-parents, parce que certains d'entre vous sont aussi grands-parents de personnes qui sont, d'enfants ou de petits-enfants qui sont en vie. Quel est le rôle de ce qui est pas, parce que là aussi, je trouve qu'il y a besoin d'un éclairage pour vous, donc ça s'adresse à vous, on n'est pas dans la question du discernement, hein, comme si je m'adressais à des jeunes qui sont en amont des fiançailles, mais la question, donc, cette soirée-là, pour but de donner un peu des repères psychologiques, spirituels, utiles aux parents et de jeunes qui envisagent le mariage à l'église. Hein, la question, le premier point qu'on peut essayer de travailler là-dessus, c'est le passage, j'allais dire, de copain à futur gendre ou future belle-fille. Ce passage-là, il est important, et quel est votre rôle là-dedans, et comment vivre ça? Il est important parce que, j'insiste en tout cas dans les préparations au mariage, pour dire que la connaissance de la belle-famille ou de la famille, c'est une étape importante. C'est une étape importante, d'autant plus que, bon, je crois voir un peu dans vos familles, je suppose, comme dans la mienne, voilà, c'est pas tous les quatre matins que un fils, une fille débarque avec une personne en disant, voilà, je vais vous présenter un tel, etc. Donc, c'est un moment clé. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, entre guillemets, en tout cas, ce à quoi il faut être, c'est plutôt vous éveiller à un certain nombre de choses pour pas vous... Premièrement, c'est une progressivité dans l'accueil. Progressivité dans l'accueil. Là aussi, je suis très à fond sur la question de la progressivité. Par exemple, je trouve qu'il faudrait redonner aux fiançailles toute leur place. Il y a un rituel dans l'Église spécifique qui s'appelle les fiançailles et qui consiste à la fois de se recevoir la bénédiction du Seigneur pour cheminer vers le mariage. De la famille, les familles se rencontrent, etc. Puis c'est, après la mystique, c'est la mastique, donc du coup, c'est tout ce qui est un bon gueuleton, etc. Mais tout ça est très important. Et du coup, je me dis, allons, une progressivité en amont. On peut y avoir un peu deux tentations. Trop vite accueillir ou pas assez vite accueillir. Alors, ça, c'est un petit peu, où mettre le curseur, c'est pas si évident. Bien sûr, une bienveillance. Bien sûr, le jeune qui vient avec sa future femme, ou qu'il estime être sa future femme, son futur mari, etc., son futur conjoint, vient avec une grande anxiété. Pour les jeunes, c'est un moment très important que de vous rencontrer. Vous rencontrer, sachant que, même si vous n'êtes pas dupes, surtout des mamans qui ont l'œil et le bon, savent qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame, etc., mais qu'ils ont été souvent, pour la plupart du temps, assez discrets sur leur histoire amoureuse, etc. Bon. C'est un moment important, et donc d'y avoir une progressivité. D'avoir une progressivité qui fait que parfois on peut très vite s'enthousiasmer. Bon, Tant mieux, si on voit le futur conjoint de votre enfant et que vous êtes plutôt enthousiaste, c'est plutôt et de dire c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle de remercier le Seigneur, de rendre grâce, etc. Mais je suis très attentif à laisser la liberté. Très attentif. C'est-à-dire que chaque pas est déjà une partie du consentement. Chaque pas est quelque chose déjà qui engage le couple. Et donc prenez conscience que quand vous recevez, alors quand je dis recevez de façon un peu, entre guillemets, solennelle, si c'est le vendredi soir avant d'aller en soirée avec une bande de copains, etc., que le futur conjoint arrive, bon, et que vous n'en savez rien, bon, vous ne le recevez pas, moi j'estime pas ça recevoir. Mais si après la messe dominicale, vous recevez avec le repas, etc., qui va bien, là c'est recevoir. Donc du coup, cette partie-là, de dire que d'être attentif à ce que il y a un accueil bienveillant, chaleureux, et où les choses, dans la mesure du possible, se passent le plus simplement possible. Mais attention de ne pas en faire trop aussi, parce que vous êtes, et donc tout de suite, invité pour les tiens, on va passer les vacances ensemble, par exemple, tiens, on va passer Noël ensemble, etc. De mon point de vue, ben vous me direz votre expérience, je trouve que ce n'est pas rendre service au couple. S'ils s'engagent dans un mariage à l'église, ils en prennent au bas mot, je veux dire, pour 50 ans. Donc, surtout avec l'allongement de la durée de la vie maintenant, donc du coup, vous avez de plus en plus. Donc, vous aurez le temps de faire connaissance, hein, il n'y a pas de panique, et plus qu'il n'en faut même. Donc du coup, soyez tout à fait rassurés là-dessus. Donc, voilà, d'avoir une progressivité, d'être attaché à une progressivité. Mais aussi et avoir une vraie bienveillance par rapport à ce que l'autre est là, en évitant, et ça c'est aussi un point, en évitant les comparaisons. Les comparaisons avec des autres de vos enfants qui sont déjà mariés. Parce que ça c'est un point qui n'est pas évident, où, quand on voit que il arrive après. Cas, quand des familles à 3-4 enfants, etc., que ce soit l'aîné ou pas l'aîné, parce que c'est pas forcément dans l'ordre, et bien du coup, de dire, bah, ah tiens, avec une telle, avec ta belle-sœur, tu vois, ça s'est passé complètement différemment. Hein, je veux dire, ah ben non, c'était pas moi. De commencer à faire des réflexions, à être un petit peu, à être dans la comparaison. C'est un vrai chemin spirituel pour vous. Voyez-le vraiment comme un chemin spirituel d'accueillir quelqu'un qui est autre que vous, qui n'est pas de votre famille, mais qui est autre aussi que les valeurs ajoutées, pièces rapportées que vous avez déjà dans la famille. Et si c'est la première fois, parce que si c'est le premier mariage que vous avez, vous aurez aussi à faire, d'une certaine manière, le deuil de ce qu'était votre famille. Votre famille ne sera plus jamais pareille. Elle sera autre, elle sera ni mieux ni moins bien, bon, on espère un peu mieux, mais elle sera autre. Elle sera autre. Vous serez plus uniquement parents et enfants. Il y aura une tierce personne qui sera intégrée à votre famille, et on espère, voilà, sur une durée, sur un mariage au long cours, comme le veut l'Église dans cet engagement, dans ce sacrement. Donc il y a un reformatage de la famille. Donc ça aussi, il faut être attentif. Les relations, ça bouge. Ça bouge à l'intérieur, c'est les relations dans la fratrie, ça bouge. Mais aussi les relations entre vous, parents, ça bouge, hein, et puis évidemment des parents avec les enfants. Donc parce qu'il y a une tierce personne, et donc ça, c'est quelque chose qui fait que ben, progressivement les choses avancent. Et donc c'est vrai qu'il y a une forme de deuil de ce qui a existé jusqu'à présent, surtout pour le premier mariage, hein, avec nos codes, notre harmonie, notre mode de fonctionnement. Hein, vous inscrivez dans un. Donc ça veut dire que vous-même, je crois qu'il y a aussi tout un chemin intérieur. Pour vous laisser décaler intérieurement, pour vous laisser, d'une certaine manière, un certain décentrement. De même, quand on accueille un jeune par rapport à la communauté, ben, il faut l'accueillir. C'est pas notre génération, c'est un autre, avec ses manières de faire, bon, il y a des choses qui nous surprennent. Et du coup, ça demande aussi et en même temps, on reconnaît, en tout cas, pour le coup, on est en discernement, hein, l'appel du Seigneur de là-dessus. Donc, du coup, donc attention à un appel trop positif qui peut être déjà une sorte de main mise sur l'autre, et parce que, je ne sais pas, quelqu'un qui se marie sur le tard, par exemple, un de vos enfants, et vous dites, enfin, il a trouvé, etc. Du coup, on va mettre les petits plats dans les grands, on va tout, de façon à ce qu'on soit à fond. Voilà, donc, qu'on donne une bonne impression de notre famille, qu'on est super famille, etc. Attention à la comparaison avec la famille de l'autre, c'est-à-dire de la famille du futur conjoint. Comment votre enfant est accueilli dans la famille, dans sa future belle-famille? Prenez conscience que même si le futur conjoint est né dans la même rue, du même village que vous, la rencontre de famille, c'est un choc culturel. Prenez conscience, même si vous cochez les mêmes cases, même si vous pensez que vous avez la même religion, même si ceci au niveau social, ceci, cela, ça reste un choc culturel. C'est un choc. Et ça, il faut on s'y attend pas toujours. C'est forcément, il y a quelque chose à... Donc, comment votre enfant est-il accueilli dans sa belle famille? C'est intéressant ça, parce que vous pouvez être assez fraternel, etc., et l'autre famille beaucoup plus froide, beaucoup plus distante. Parce que, pourquoi? Parce que peut-être il y a eu des séparations déjà, parce que c'est le deuxième ou troisième personne que leur enfant leur présente, et donc qui sont très... Parce que c'est une famille qui est distante. Je veux dire, qui est un peu froide, qui n'est pas affective. Hein, et ça, je pense que, là aussi, soyez attentifs, vous ne fonctionnez pas pareil. Vous allez devoir vous rencontrer, et en plus devoir vous rencontrer sans avoir cheminé ensemble, et devoir vous rencontrer alors que, bien souvent, en plus, pour parler des questions d'argent. Donc, les questions d'argent, c'est compliqué. Et rencontrer une famille qu'on ne connaît pas, qui n'a peut-être pas les mêmes codes que nous, qui n'a peut-être pas, etc. Donc l'accueil d'une certaine différence est intéressant. Donc le rôle des fiançailles, j'en ai parlé, je trouve que c'est vraiment important d'être assez attentif là-dessus. La question, est-ce que, comme votre regard sur l'union, sur le futur conjoint que votre enfant vient vous présenter? Là aussi, je trouve ça, une fois que ça a cheminé, etc., dans les familles, j'allais dire, plus traditionnelles, on demande la main, etc. Bon, là aussi, je suis au risque de vous paraître très vieux jeu. Je suis pour. Je suis pour parce que, en tout cas, je suis tout à fait pour qu'il y ait, une fois que c'est mûr, une fois que, voilà, il y a un cheminement et c'est jeunes qui sauront un peu quand est-ce qu'eux-mêmes veulent faire la démarche et annoncer leur mariage ou annoncer leur fiançailles, mais qu'il y ait un temps ensuite, une fois cette étape, donc les fiançailles qui sont déjà dans les starting blocks, etc., un temps de connaissance de l'autre. Et de ce point de vue-là, je trouve ça assez décevant comment les jeunes sont accueillis dans leur belle famille. C'est-à-dire que, bon... Il n'y a pas forcément un moment, alors je ne sais pas comment il faudrait faire, mais un moment de présentation, alors sans que ce soit non plus entretien d'embauche, parce que si c'est entretien d'embauche, où l'autre se sent scanné de haut en bas et de bas en haut, c'est vrai que ça peut être un peu tendu. Donc, mais du coup, de se dire qu'il y a un temps de présentation, qu'il y a un temps que l'autre puisse expliquer d'où il vient, un peu son parcours, un peu, voilà, je trouve, pensez-y. Qui a un lieu, moi je trouve ça, s'il n'y a pas de lieu et de temps pour les choses, elles ne se font pas. Soit les choses sont dans l'agenda, soit elles n'existent pas. Et donc, posez-vous la question, est-ce qu'au fond, il n'y a pas un moment où il y a une forme de, quand l'autre déjà pense, votre enfant dit, ben oui, je pense que c'est la bonne personne, etc. Voilà, on peut faire connaissance plus personnellement avec les parents, plus bon, le couple avec vous deux ou avec le papa. Bon, ça pour les traditions familiales, c'est un peu. Mais c'est important ça. C'est important parce que ça permet à l'enfant aussi, aux jeunes qui arrivent plutôt dans votre famille, de rentrer dans un climat un peu sécurisé. Ils se sentent accueillis tel qu'il est. Hein, d'autant plus s'il vient de milieux différents, d'autant plus s'il vient de réalités religieuses différentes. Quand je dis réalité religieuse, ça peut être une personne qui n'est pas baptisée, qui n'a pas de foi, qui n'est pas croyant, bon. Une personne, voire d'une autre religion, c'est pas si simple, j'accompagne en ce moment un couple, lui est juif et elle est catholique, lui juif d'une famille qui n'est pas observante, ils font un peu comme beaucoup de catholiques, ils font deux, trois fêtes dans l'année, ils ne mangent pas cachère, etc. Et lui est encore moins observant que ses parents. C'est-à-dire, quelque part, le fait du mariage l'a rapproché un peu de sa tradition religieuse, en tout cas de la perspective du mariage. Mais du coup, c'est intéressant de voir. Et elle, scoutisme d'Europe, parelmonial, messe, prière le soir, bénédicité, les repas, je veux dire, famille à fond, quoi, au taquet, vraiment au taquet de Jésus, on peut pas plus, on peut pas plus. Donc du coup, lui. Il a fini par comprendre ce que ça voulait dire quand je signais les mails UDP. UDP. Union de prière. UDP. Il me dit, c'est quoi? Et à la fin, maintenant, il me met UDP. Voilà. Donc, du coup, donc c'est intéressant voilà, elle me dit, jamais, je pense, j'aurais pensé tomber amoureux d'un juif. Jamais. Je trouve, voilà. Elle lui a dit devant lui. Hein. Mais oui, elle me dit, c'est vrai. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et ça dit très bien. Hein. C'était tout à fait stable, type très. Non, mais tout à fait. Mais du coup, comment est-ce que. Parce que c'est intéressant. Parce que le mariage, là, d'autant plus quand il y a une distance au niveau religieux, ça vous interroge sur vos fondamentaux, vous comme parents. Ça vous interroge sur qu'est-ce que je veux transmettre à l'autre. Parce que le mariage, c'est une transmission. Une transmission de gènes, une transmission de patrimoine, une transmission de culture, une transmission religieuse. On est dans la transmission. Mais il y a des choses que vous vivez, il va falloir pour vous renoncer à une forme de copier-coller de votre propre couple. Hein? Et donc, du coup, de dire maintenant, lui, c'est un autre couple. Et c'est là où ça a un vrai effort intérieur. Je dis, ben voilà, il y a. Alors, du coup, là, pour la question du mariage avec les personnes d'une autre religion, je dis, ben, le mariage à l'église, vous inscrivez dans le mariage à l'église, il y a des demandes, entre autres, de baptiser, catéchiser les enfants. Point. Je dis, si vous ne voulez pas ça, vous ne vous mariez pas à l'église. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait une exception. Est-ce que toi, tu es d'accord là-dessus? Sinon, il y a le mariage civil. Bon, donc on s'inscrit bien dans une réflexion, dans un mariage à l'église. Donc, c'est intéressant de dire, ben. Ça vient interroger votre. Voilà, quand il y a, plus l'autre a choisi une personne qui est différente au plan social, au plan religieux, plus ça interroge au fond la famille d'origine. Et certains se demandent, mais qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Hein, vous vous rappelez le film, hein, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc, voilà. Et non. Du coup, c'est intéressant de dire que, d'interroger aussi votre famille, mais ce n'est pas parce que vous avez mal fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas le voir comme un échec de votre monde. Oui, mais du coup, les enfants, ceci, bon. Non, c'est juste que l'autre a choisi. Alors, je m'assure, par exemple, dans la préparation au mariage, que quand le jeune choisit une personne qui vient d'un milieu ou de réalité très différente de sa famille d'origine, que ce ne soit pas une forme de déni, une forme de manifestation, d'être en colère contre sa propre famille. Du coup, je te choisis, toi qui es complètement d'ailleurs, pour montrer à ma propre famille que je ne veux pas de l'éducation qu'elle m'a donnée. Alors là, moi, j'ai les warnings qui s'allument tout de suite. Je dis, non, là, le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, ce n'est pas pour régler ses comptes avec sa propre famille. Sinon, ça ne veut rien dire. Là, tu te mets dans quelque chose qui va direct dans le mur. Donc, du coup, mais voilà, ça interroge vos fondamentaux. Ça interroge votre pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous avez fait cela, et puis d'autres qui viendront et vous interrogeront. Vous interrogeront, ah oui, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi, je ne sais pas, dans des familles un peu traditionnelles, ben on mange, à table, il y a beaucoup de codes à table. Du coup, parfois, il y en a qui mettent carrément, il y a un plan de table, ben, toi, tu mets là, tu mets là. D'autres, ils arrivent pas, dans notre famille, on a là où il y a une chaise de libre, on s'assoit. Bon, voilà, il y a des choses comme ça. Et du coup, l'autre va découvrir les codes de votre famille, les rituels aussi familiaux, c'est intéressant. Vous avez, c'est intéressant, pensez à vos rituels familiaux. Bon, on a parlé du dimanche midi, le repas dominical. Alors, ceux qui ont leurs enfants, bon, c'est peut-être moins le cas à Compiègne, mais dans les grandes métropoles, parfois ils ont leurs enfants proches vivant dans la proximité. Parfois, ben, il y a un rituel, on se retrouve le dimanche midi ensemble pour déjeuner, etc. Ou alors les vacances. Ou alors, voilà. Donc vous avez un certain nombre de rituels, mais l'autre famille a aussi des rituels. Et la question, et j'aborde la question dans le livre là, sur le discernement, comment faire pour pour que, entre les deux familles, il y a ce qu'on appelle la loyauté, les questions de loyauté. C'est-à-dire que y a vous avez plus on aime quelqu'un, plus on a d'attentes pour lui. Plus on aime quelqu'un, plus on a d'attentes pour lui. Hein? Et évidemment, vos enfants, vous avez des attentes. C'est évident. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est normal. Il n'y a ni à culpabiliser, ni quoi qu'est-ce. Non, plus on aime quelqu'un, plus on a d'attentes pour lui. Non. Donc, ça veut dire que l'enfant, quand il naît, il perçoit l'attente des parents et donc il essaye, comme il peut, de répondre, hein, à l'attente des parents. Mais qu'est-ce qui fait que quand on choisit un conjoint, ça ne répond pas à l'attente des parents? On sent que c'était quelque part pas la belle-fille idéale ou le gendre idéal qu'on présente, mais quelqu'un qui, en fait, surprend. On n'aurait jamais pensé que tu te serais marié avec cette personne-là, etc. Un style-là. Bon, il m'arrivait comme ça d'accompagner des couples, mais vraiment très différents. Hein, mais du coup, je dis, soyez attentifs, vous jeunes, à envoyer des signes d'attachement à vos familles d'origine, à vos parents. C'est-à-dire de dire, si je choisis quelqu'un qui est différent, c'est pas contre toi, papa, maman. C'est pas parce que je ne t'aime pas. C'est pas parce que j'ai pas aimé l'éducation que tu m'as donnée. C'est pas parce que ceci, parce que cela. Non, c'est juste que j'ai trouvé cette personne. Il y a quelque chose qui est difficile parce que, quelque part, vos parents, vous renoncez aussi à occuper une certaine place dans le cœur de vos enfants, place qu'occupera le futur conjoint. Et donc, il y a aussi un deuil. C'est-à-dire, il y a une partie de votre enfant qui vous échappe. Ça, c'est évident. Il y a une partie de votre enfant qui vous échappe et qui fait que. Et c'est vrai que parfois, s'il y a une forme. Bon, jalousie, peut-être le mot est fort, mais de dire, là aussi, un vrai deuil, de dire, je vais laisser à l'autre une part. Le cœur de mon enfant ne m'appartenait pas qu'à moi. Je le partagerai aussi avec une tierce personne, hein, que je n'ai pas choisie. Que je n'ai pas choisie. Donc, c'est intéressant de voir quand il y a des différences, etc., la question des loyautés et parfois des conflits de loyauté. Des conflits de loyauté. Je me rappelle avoir préparé comme ça un couple qui m'a été envoyé par la paroisse, la paroisse de Compiègne, etc. Bon. Et du coup, bon, il arrivait un peu après le parcours de préparation au mariage, etc. Donc, il était un peu à la ramasse, bref. Et lui était d'origine vietnamienne. Il a fait des grandes études, etc. Une maman seule, qui tenait un traiteur asiatique, je ne m'en rappelle plus où. Et puis elle, non, venait d'une famille d'origine française, etc. Et je lui dis, la maman vietnamienne, visiblement, elle avait un grand poids. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera si entre ta femme, si ta femme et ta maman ne sont pas d'accord? Comment ça se passera? Et il me répond, puisse ce jour ne jamais advenir. Puisse ce jour ne jamais advenir. Je lui dis, t'as entendu ce qu'il a dit? Il y a que t'auras tort. C'est-à-dire que bon, mais c'est parce que c'est des questions de loyauté. C'est des questions de loyauté. Une maman qui s'est sacrifiée, alors qu'ils ont fait toutes des grandes études, etc., qui se levait à 4 heures du matin pour faire l'ENEM, etc. Il a vu tout ça, enfant, etc. Il a dit, faut que je. Voilà. Pour lui, c'est pratiquement impossible de dire non à ça, de faire un choix qui s'oppose. Donc, c'est important aussi pour vous, ça vous demande un détachement intérieur, ça vous demande. Et de renoncer à une forme de toute-puissance, de renoncer à dire. Quand on est parent, forcément, on dirige la vie de ses enfants. C'est ça l'éducation. C'est logique. Mais vous arrivez à un moment donné où l'enfant dit non, maintenant c'est plus toi qui vas diriger ma vie. On est en couple, tu as un couple en face de toi. Et donc d'accueillir la manière de vivre ça. La question des préparations au mariage, la préparation au mariage, du mariage lui-même. Donc on a parlé de la question laisser vivre aux fiancés le temps de la nouvelle avant de commencer les préparatifs matériels. Les préparatifs matériels ne sont pas que matériels. Moi, je suis très attentif aux préparatifs matériels parce que ça dit quelque chose de votre couple, vous comme parents, de votre famille. Il y a des attentes de certaines familles par rapport à la manière de s'habiller, par rapport au lieu du mariage, par rapport à la quantité d'invités. par rapport au budget qui est mis, et être attentif en particulier quand il y a une certaine disparité entre le budget que vous auriez voulu mettre, parce que, par exemple, imaginons, soit une fille unique, et que l'autre, c'est une famille de 5 ou 6 enfants. Ben, forcément, on n'a pas du tout le même budget, ça c'est évident. Donc, comment est-ce que je suis attentif à ne pas faire que l'autre se sente, ben voilà, voilà, il y a... Donc, les questions d'argent sont des questions délicates parce que si l'autre famille se sent un peu, bon, méprisée, le mot est fort, mais mis de côté, ou voilà, donc, en tout cas, ne pas prendre de décision sans consulter vos enfants. Ça, encore là, il y a un couple, là, il n'y a pas très longtemps, que j'accompagne, c'est-à-dire, oui, mais la maman de lui a déjà signé pour le dentiste, pour s'aider, sans consulter. Et elle était folle. Je lui dis, mais c'est quoi ce truc-là? On fait les choses, on nous consulte. Et c'est là la grande différence avec peut-être ma génération, hein, ceux qui sont autour des 60, etc. C'est que la grande différence, c'est que dans ma jeunesse, c'était les parents qui organisaient et invitaient leurs amis. Et aujourd'hui, c'est les parents qui organisent et qui financent toujours, mais c'est plus leurs amis. C'est-à-dire que c'est, y a quand même un peu d'amis, mais il y a beaucoup les amis des enfants. Les enfants veulent avoir vraiment leurs amis. Et voir quand les enfants aussi ne prennent pas en charge une partie du mariage au plan matériel. Parce qu'on se marie de plus en plus tard. C'est-à-dire, on arrive, le laps de temps entre la fin des études supérieures et donc l'entrée dans la vie professionnelle et le mariage est quand même de plus en plus long. Et donc, du coup, ce qui fait que la personne arrive à 30 ans, 35 ans, etc., 40, voilà, avec une vie professionnelle, avec une... ils arrivent avec un budget, ils ont déjà, quand ils n'ont pas acheté déjà quelque chose, quand ils étaient célibataires. Donc, du coup, vous voyez, c'est tout à fait une autre relation que si le futur conjoint a 22, 23 ans. Donc soyez attentifs à les questions d'argent, soyez vraiment attentifs là-dessus. Donc, avoir un juste positionnement, les disparités de fortune entre les familles, hein, la question de la célébration elle-même du mariage, je pense, c'est vraiment ça appartient, et c'est généralement respecté. Hein, la célébration religieuse, j'entends, du mariage, est respectée, donc du coup, c'est quelque chose qui appartient aux fiancés. Bon, ensuite, la réception, les listes d'invités, etc., tout ça, c'est à voir. La question du faire-part, par exemple. Je me rappelle un couple, elle me dit, dans ma famille, je n'ai vu arriver qu'un style de faire-part depuis que je suis enfant. Le style de faire-part hyper classique, les tranglaises comme ça, qui font comme ça, etc., tout machin, quelques côtés, ça, bon. Bon, et l'autre dit, ah non, moi dans ma famille, non. Ah non, c'est Bébert et Titine, viens à la teuf, on va venir se marrer. Ah oui, d'accord. Ok. Alors attends, je t'explique là. Il y a des familles qui ont opté pour deux faire part. Parce que, voilà, du coup, on essaie d'être intelligent. Il n'est pas tanné d'être intelligent, c'est même recommandé. Donc, du coup, vous avez une difficulté, cherchez à sortir, centrez pas sur le problème, centrez sur la solution. Parce que si vous commencez à vous mettre l'autre, à l'avoir dans le nez, ou que l'autre se sente... parce que c'est très puissant, je veux dire, encore une fois, c'est tout l'engagement de la personne à travers le mariage. Vous validez ou pas sa famille. Donc, c'est, au plan émotionnel, c'est très puissant, c'est très fort. Donc, soyez attentif à pas braquer les choses. Comment est-ce qu'on peut sortir, avoir une certaine souplesse, sachant que la bonne nouvelle du mariage, c'est que le mariage est déjà passé. C'est-à-dire que le mariage est derrière vous, et du coup, tout le monde... Le mariage, est sûr, et c'est sûr, il y a un côté anxiogène. Et singulièrement, le mariage à l'église, un côté anxiogène. C'est one shot, c'est un effet de cliquet. C'est fini. Une fois que tu as... Clac, c'est... C'est fait. Est-ce que c'est ça aussi que je trouve la grandeur aussi du mariage à l'église, je trouve ça que c'est formidable. C'est que justement, c'est ce côté vertigineux hein, du sacrement, de tout sacrement et singulièrement. Et c'est le seul sacrement qu'on reçoit à deux. Tous les autres sacrements, on les reçoit seuls. Donc, du coup, je trouve que c'est. Du coup, c'est sûr, il y a un côté anxiogène, il y a un côté d'anxiété, il y a. Et donc, bon. Maintenant aussi, ça va être intéressant de voir comment. Un autre point, c'est purifier mes sentiments par rapport à notre propre mariage, nous comme parents ou grands-parents. Quel lien avec mon propre mariage, mes projections, peut-être mes frustrations, mes bons souvenirs. Se mettre au clair sur ce que nous avons rêvé pour notre enfant et la situation réelle comme elle est. Ça. Comment aussi ça vient questionner quand le parent est en difficulté. Je pense par exemple à des personnes veuves. J'accompagne un couple où les deux mamans sont veuves, pas au même moment, il y a une fait 13 ans qu'elle est veuve, l'autre ça fait 5 ans. Voilà, c'est pas anodin. Quid quand un des parents ou les deux parents sont séparés, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce que du coup les parents qui sont séparés sont d'une certaine manière obligés de rejouer le couple alors qu'ils sont séparés? Et donc ils sont comment vous allez gérer ça? Peut-être ils ne se sont pas vus depuis 7 ans, etc. Et puis pour le mariage, voilà, il va falloir. Du coup, quand le parent est un des parents est en difficulté, en fragilité, on va dire, hein, parce que ce soit le veuvage ou que ce soit ou les problèmes de santé ou de séparation, etc. Bon, du coup, c'est intéressant d'être attentif à ne pas faire peser cette situation sur le futur couple. Hein, et c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de crainte de certains de dire, mais voilà, j'aurais pas de. Je ne connaîtrai jamais mon beau-père, je n'arrive pas dans une famille, entre guillemets, entière. Donc, par le veuvage, de par la séparation, ou des persos, des enfants plus rarement orphelins, par exemple. J'accompagne un couple, lui est orphelin. Hein, il a perdu ses deux parents dans un accident de voiture. C'est pas tout ça, moi, je suis très attentif. Tout ce qui touche la famille, je suis très attentif. Du coup, alors c'est lui, mais ça aurait été elle, par exemple. Là, le cas où les deux papas sont décédés, je pose la question, qui te conduira à l'hôtel? À elle, je lui pose la question. Voilà, parce que qui me conduit à l'hôtel dit aussi, qui a d'importance dans ma vie? Qui compte dans ma vie? Et du coup, est-ce que c'est mon parrain? Est-ce que c'est mon frère? Est-ce que c'est un oncle? Bon, c'est des choses traditionnelles, mais c'est pas religieux en tant que tel, hein, mais ça dit quelque chose. En tout cas, je suis assez attentif de façon à pouvoir. Voilà, donc avancer aussi. L'aspect social aussi du mariage, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, de vivre dans ce mariage? Qu'est-ce que mon enfant veut exprimer à travers ça? Certains sont par exemple, certains enfants, j'ai vu, seraient assez preneurs d'un mariage beaucoup plus simple, beaucoup moins, fastueux, ou fastueux, peut-être le mot est fort, mais en tout cas, avec moins de démonstrations, moins de moyens, et invité beaucoup plus largement, par exemple. Ça, c'est souvent, j'entends ça. Hein. On veut plus de personnes, bon, peut-être pas que des sandwichs, parce que c'est sûr que c'est un peu léger, mais plus de personnes, mais que ce soit plus simple. Enfin, où est-ce que vous sentez que vous voulez montrer aux autres, là aussi, soyez dans votre cœur, où est-ce que vous en êtes, montrer aux autres votre statut social. En tout cas, moi, pas toujours à l'aise quand je sens que le mariage est là comme un prétexte pour montrer son niveau de vie, pour afficher ses moyens. Et on va en payer un feu d'artifice, et on va faire ceci, et le champagne qui coule à flot, et ceci et cela. Bon, je me dis, et la famille d'en face, est-ce qu'elle peut suivre? Peut-être qu'il y a une des deux familles qui a beaucoup de moyens, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi du couple? Est-ce que c'était eux qui ont choisi? Hein, est-ce que. Bon. Alors, vous avez aussi si vous voulez faire passer les papiers, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les mettre. Il y a des papiers qui sont au bord là. Donc,
Au bout de rang, les papiers, vous voulez les faire passer. On a prévu que les questions soient écrites pour une
comme voilà.
question de discrétion. Donc, écrivez et je vais passer, on récoltera vos
Voilà.
questions.
Donc, ça, donc cet aspect matériel, c'est aussi un aspect important. Le choc culturel, j'en ai un petit peu parlé. Sachant aussi que vous n'êtes pas à même, vous n'êtes pas invité à devenir les meilleurs amis de la belle famille. Enfin, je pense que là aussi, vous avez quelque chose. Vous n'êtes pas amené à amener les meilleurs amis de la belle famille. C'est des personnes, voilà, qui sont, que vous ne connaissez pas, dont vous faites la connaissance. Et même si vous les connaissiez, alors ça c'est aussi intéressant. C'est bon. Même si vous les connaissiez, c'est pas pareil d'être ami et de devenir belle famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Je connais, ah ben oui, c'est les Intel, etc. On se rencontrait 2-3 fois, etc. Maintenant, ce sont super. Moi, je dis, on est en terrain miné. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas que une chose être ami, autre chose belle famille, c'est-à-dire autre chose d'attendre une transmission de patrimoine, comme je vous l'ai dit, culturel, religieuse, et la manière aussi de vivre la vie religieuse à l'intérieur même du catholicisme est différente. Des personnes qui sont plus du rite traditionnel, tout en étant dans l'Église catholique, d'autres qui sont plus sensibles à Thésée, d'autres qui sont plus sensibles à ceci, à cela, etc. Donc les manières de vivre aussi diront aussi de l'exprimer votre famille. Donc soyez attentifs là-dessus vous rentrez dans une altérité, ce qu'on appelle l'altérité. C'est-à-dire, l'autre est autre que moi. C'est ça que ça veut dire, l'altérité. Et l'altérité, c'est toujours difficile. Que l'autre soit autre que moi, c'est compliqué. On le vit en communauté religieuse, on le vit dans le couple, et vous le vivez par l'accueil de la future belle-famille et éventuellement du futur conjoint de votre enfant. Vous êtes quelqu'un qui est autre. Une conversation profonde avec votre fils, votre fille, ça peut être aussi intéressant une période de joie, mais en même temps, voilà, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas forcément. On a nos attentes, on veut rendre aussi un certain nombre d'invitations, surtout le premier mariage, dans certains. Voilà, on dit on rend les invitations, etc. Donc, bon, la découverte des. En fait, la découverte aussi des valeurs qui vous tiennent à cœur. Et je redécouvre mon enfant sous un autre aspect. Il se présente comme couple. Face à moi, il ne se présente plus comme enfant ou petit enfant. Il se présente comme un couple. Et donc, du coup, c'est un vrai décalage. Hein. Mon fils, ma fille n'est plus dans un rapport parent-enfant, mais déjà un couple avec un autre couple. Et c'est ça une éducation réussie. Une éducation réussie, c'est une éducation où, au fond, l'enfant devient un alter ego. C'est ça l'éducation réussie. C'est l'enfant devient un adulte. Un adulte qui passe d'homme à homme, de femme à femme. Voilà. C'est un alter ego. C'est quelqu'un qui n'est plus en une certaine soumission ou manipulation ou emprise, non, qui peut dire je. Et dire je, c'est aussi pouvoir dire non. Donc est-ce que vous laissez la possibilité à vos enfants de pouvoir aussi dire non à un certain nombre d'attentes que vous avez? Donc, est-ce que vous leur laissez la possibilité? Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. La question des choix spirituels du couple, là, je pense par un couple que j'accompagne, où elle est protestante, lui catholique, et lui très impliqué, disons, la famille de lui moyennement impliqué, mais la famille de lui très impliqué dans la foi, etc., à fond, etc., et dit, ben, je lui dis, mais est-ce que ce sera une messe ou est-ce que ce ne sera pas une messe? Parce que je me rappelle de me savoir préparé un super couple, lui protestant et elle catholique. Catholique et bretonne, ce qui rajoute. Catholique, c'est une chose, mais bretonne catholique, c'est autre chose encore. Ça, je ne sais pas s'il y a des bretons dans l'assemblée, mais c'est pas pareil. Il y a gros poids de la tradition, etc. Et bon, et lui, protestant, de chez protestant, les parents impliqués dans la communauté, vraiment un couple super. Bon. Voilà, bah, du coup, ils ont dit, bah, la grand-mère était désolée que le jour du mariage de sa petite-fille, il n'y ait pas de messe. C'était une bénédiction. Pourquoi? Parce que le pasteur, donc ça se présente en présence du pasteur, on avait vu ensemble que c'était le lendemain qu'on allait faire une messe d'action de grâce. Sinon, le pasteur, toute la partie déjà sacrement, il est à côté en mode pot de fleurs, il regarde. Si en plus ça se rajoute la partie Eucharistie, du coup, la trois quarts du temps, il est à côté, quoi. Il ne fait rien. Bon, on n'accueille pas dans la célébration eucharistique des personnes d'un autre qui sont pas dans l'Église catholique, bon, ça c'est logique. Et donc, du coup, donc voilà, ils ont fait des choix. Alors, ce choix-là, mais c'est un super couple, c'est voilà. Et du coup, le lendemain, on a fait mettre une action de grâce à l'église du village, tout le monde y était. Bon, c'était super, mais c'est vrai qu'il y a un petit pincement au cœur. Il dit, ben là, il n'y aura pas de communion le jour du mariage de ma petite fille. Il y a quelque chose auquel renoncer, ou qui vous aurait bien plu, mais qui, pour la circonstance, en revanche, les enfants sont catéchisés, baptisés, bon, mais dans un couple qui a 10 ans, au moins 10 ans, un peu plus, même vie de couple. Mais voilà, je pense aussi les choix spirituels du couple, du jeune couple qui se construit, bah, de les respecter. Les accueillir, d'autant plus si l'autre n'a pas du tout d'éducation chrétienne. Ou pas d'éducation chrétienne, ou vient d'un milieu tout à fait déchristianisé, ou simplement un baptême, les parents ont vu de la lumière, sont rentrés dans l'église, ont baptisé, ils sont sortis, ils ne sont plus jamais rentrés, quoi. Donc, ça, j'ai accompagné un couple, voilà, il me dit, mais moi, j'ai rien reçu. Mais lui, c'est très, très beau parce qu'il me dit, ce que veut l'Église, moi je le veux. Liberté, indissolubilité, fécondité, fidélité. Pour moi, ça c'est. Je signe partout. Bon. Remarquez bien qu'on ne demande pas la foi. On ne demandera pas dans le dialogue entre le prêtre et les fiancés, on ne demandait pas avez-vous la foi? Dans aucun sacrement, on vous demande est-ce que vous avez la foi? Quand vous allez communier, est-ce que vous avez la foi? Comme ça? Non, on ne demande pas. Quand vous allez vous baptiser, c'est la foi des parents, mais bon, on questionne la foi. Bon, mais ensuite, quelque part, on la présuppose, c'est toute la difficulté. Quand on a un régime chrétien et où habituellement les gens sont croyants, c'est une chose. Maintenant, ce n'est plus le cas avec la sécularisation. Mais c'est intéressant de voir que dans le dialogue entre le prêtre et le diacre, ou le diacre et les fiancés, la question de la foi. Il y a une question qui a été rajoutée en 2006 parce qu'il y a une modification du rituel. Cette question-là, c'est acceptez-vous de prendre votre place dans le monde et dans l'Église? C'est-à-dire que le mariage, lui, comme un envoi, comme une messe d'envoi, quelque chose qui envoie, un envoi vers le monde, je trouve ça très. Mais qui est optionnel. Qui est optionnel parce que certains ne. Voilà. Donc la question des choix spirituels, sachant qu'une chose, c'est que, et ça j'invite aussi les jeunes là-dessus, une religion. C'est une vision du monde. Ne sous-estimons pas. Un milieu social, c'est une vision du monde. Prenez conscience que vous portez avec vous, comme chacun d'entre nous, une vision du monde. Et donc, mais à l'intérieur même de l'Église catholique, encore un couple que j'ai vu samedi dernier, etc. Elle, beaucoup plus traditionnelle que lui, bon, baptisé, communié, mais bon, ensuite, famille peu pratiquante, elle, famille pratiquante, la défense, les trucs pour la vie, les veillées de prière pour la vie, le mariage pour tous, il chauffait le pavé parisien, toute la famille à fond dans les manifs pour tous et compagnie, bon, lui, pas du tout. Lui, on n'a été aucune manif, on n'a rien fait. Les homos, ils se marient pas, moi c'est un peu égal, etc. Mais il est catholique, il est baptisé, il a fait la communion, il a même fait la confession. Donc il n'y a pas forcément, les manières d'être catholique, sont pas forcément. C'est la différence entre une église et une secte. C'est que c'est pas, il n'y a pas qu'une seule tête, quoi. Donc prenez conscience que même si l'autre est dans l'église catholique, il a l'approche qu'il a, et j'ai souligné, vous venez d'approches, de mondes qui sont très différents. Prenez juste conscience de ça. Point barre, c'est le cas en général, mais parfois c'est plus, j'allais dire, mis en avant. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Peut-être commencer à avoir les réponses, les questions que vous pouvez vous poser. Et puis, voilà. Alors oui. Bon, vous n'avez pas les bonnes nouvelles, non, là, donc. Alors, quelles précautions prendre dans ces moments à l'attention des frères et sœurs et plus petits? Ah oui, alors intéressant ça. La question de la fratrie. Moi, je vois plusieurs choses. Premièrement, quand les mariages ne sont pas dans l'ordre des enfants, c'est-à-dire que peut-être c'est Vous avez des enfants, c'est le troisième qui se marie, etc. Et la fille aînée de 35 ans, elle voit, paf, ça fait partie. Donc ça demande une certaine délicatesse, là, par exemple. Maintenant aussi, ça peut être l'inverse. C'est l'aîné qui a 25 ans et vous avez encore des petits à la maison. Une chose assez simple, la question de la chambre commune ou pas. Alors là aussi, on est dans des familles, je vois très bien, il y a des familles, elle me dit, dans ma famille, mais c'est même pas un sujet, c'est ta chambre est là, ciao. Voilà. Dans la famille de mon futur mari, eux, ils ne voient pas le problème. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce que vous mettez en place là-dessus? Bah, se trouve que... Et pourquoi vous le mettez en place? Moi, je suis pour la maîtrise de soi-même, et etc., avant le mariage, etc., parce que je trouve ça un lieu de liberté, que le corps engage, bon, ça c'est... Tout. Mais pourquoi vous dites ce que vous dites? Parce que du coup, ils viendront, mais pourquoi tu fais ça? Et est-ce que vous l'avez fait au premier, mais pourquoi est-ce qu'au quatrième, finalement, bah, vous lâchez un peu, puis lâchez du lest, vous avez vieilli un peu, vous êtes un peu ramolli, bon, être ramolli, finalement, voilà, vous êtes... Vous la voyez, allez, moi aussi. Si on n'est pas dupes, hein, ils sont très pudiques par rapport aux prières, etc. On ne prie pas, mon père est très pudique. Mais beaucoup moins pudique par rapport au pyjama. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc la question, oui, c'est vrai, l'attention aux frères, aux sœurs, mais en même temps, c'est vrai que vous voulez transmettre. Et donc, vous dites, bah, et je trouve que c'est aussi, peut-être pourquoi dire, bah, voilà, on n'a pas à être au courant de votre intimité sous notre toit. Sous mon toit, c'est ma loi. Sans durcir les choses, mais sous mon toit, c'est ma loi. Il me semble qu'on n'a pas être au courant de votre intimité. Si, dans ta famille, vous faites genre chambre commune, c'est votre problème. Bon, moi, vous n'avez pas vous immiscer dans l'intimité de votre enfant. Là aussi, c'est quelque chose qui vous échappe. Ça me paraît évident. Hein. Là aussi, pas mal, c'est sur la fratrie, c'est intéressant. Les rapports sont différents. Voilà. Quelle position du grand frère qui s'est marié par rapport à la petite sœur de 18 ans, hein, qui ne vivent pas très bien le fait qu'ils viennent moins que, et ne prennent pas beaucoup de nouvelles. Ce ne sera jamais ton frère comme ça a été ton frère avant le mariage. Ton frère qui a joué avec toi, parce qu'il a 28 ans, il a 10 ans de plus, c'était ta petite sœur, ton frère, c'était ton héros avec ton papa, ton idole, etc. Oui, mais ce sera jamais comme ça. Plus comme, et c'est bien pour toi, jeune fille de 18 ans, que tu dises ce ne sera plus jamais ça, parce que du coup, il occupera une autre place pour moi. Il sera important dans ton cœur, mais aussi, toi, tu le laisses aller son chemin. Sœur cadette, etc., tu le laisses aller son chemin, etc. Si ma fille est rejetée par sa future belle-mère, est-ce que c'est difficile, tenable dans un... Alors, pourquoi est-ce rejetée? C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'un de vos enfants n'est pas accueilli dans la belle famille en face? Et c'est vrai que... Qu'est-ce que ça veut dire de la belle famille? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite de la préparation matériel du mariage, parce qu'à mon avis, ça devrait être plutôt tendu. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est le garçon, imaginons, qui n'a pas ce qu'on appelle dans le livre, là, sur le discernement, le premier chapitre, on m'a dit, est un peu compliqué, c'est vrai, il faut un peu s'accrocher, c'est ce qu'on appelle la différenciation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vos enfants ne sont pas vous. Point. Ils ne sont pas appelés à devenir. Ils ne sont pas appelés à être comme vous. Ce qu'on appelle, mais il y a des familles où on ne fait pas ça. Ce qui fait que l'autre est scotché quand même. Je me rappelle, c'est une jeune fille, etc. Elle me dit, je n'oserais pas mettre un prénom à mes enfants que ma mère ne validera pas. Je dis, mais attends. Ah, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai pris les lunettes. Oui, ça c'est... Et elle dit, à maman, j'appelle maman 2-3 fois par jour, pour un truc, j'ai vu une brosse machin, etc. Clac, 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 les groupes WhatsApp. Voilà, par exemple, ça, on affiche son bonheur face à l'autre, bon, il y aurait tout un truc à faire là-dessus, mais il y a des gens qui sont des enfants qui ne sont pas différenciés, c'est-à-dire qu'ils ne, Ils sont pas rentrés, ils sont pas devenus adultes, ils sont encore. Et donc, est-ce que le cas de ce futur gendre, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui est, ou est-ce que c'est aussi des familles, parfois des familles qui sont toxiques? Maintenant, un cas comme ça, évidemment, ça doit être accompagné, parce que sinon, alors, faut-il laisser les jeunes fiancés vivre ensemble avant le mariage? Ils ne vous demandent pas votre avis, premièrement. Donc, premièrement. C'est vrai que moi je ne suis pas pour. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est. Mais aussi c'est important d'avoir des arguments, c'est de dire en quoi le mariage. Moi, j'accompagne des couples qui vivent ensemble avant et des couples qui ne vivent pas ensemble, j'accompagne les deux. Je ne suis pas pour, pourquoi? Parce que je dis, mais en quoi le mariage sera un avant, un après alors? Si quelque part vous avez tout expérimenté de la vie matrimoniale, sauf souvent bon, les enfants qu'on réserve à l'intérieur du mariage. Dans les familles plus classiques, mais sachez quand même qu'en France, 66% des enfants qui naissent naissent hors mariage civil. Donc voilà, donc c'est aussi, vous appelez bien de savoir dans quel monde on est situé. Maintenant voilà, vous dites, ça vous surprend, ça. Je crois, alors, ça n'aide absolument pas au discernement. 90% des couples qui se séparent ont vécu ensemble avant le mariage. Parce que c'est quoi ça, ce truc-là? C'est souvent une manière de se rassurer. Est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on est machin? Est-ce qu'on est ceci? C'est complètement inefficient, mais inefficient complet. Je trouve beaucoup plus constructif de ces temps de respiration, on est ensemble, pas ensemble. Ou alors ça peut être aussi, plus compliqué encore, des questions financières. Ah ben on est à Paris, tous les deux, on ne va pas payer de loyer. Oui, parce qu'on termine chez l'un, on termine chez l'autre, on termine bon. Oui, mais justement, je trouve, c'est ça l'altérité, de dire qu'il y a un avant, un après, il y a quelque chose qui, il y a une étape qui est franchie, et on peut très bien connaître l'autre, je veux dire, il suffit de passer du temps avec l'autre, etc., en vacances, dans un groupe d'amis, pour savoir qui est qui, je veux dire, faut pas non plus. Donc du coup, si on est un peu observateur, on le verra. Donc je trouve, personnellement, ça n'aide absolument pas. Voilà, maintenant, vous vous dites, ben voilà, je suis dans notre famille, ça se passe comme ça, chacun a sa chambre jusqu'au mariage, parce qu'il nous semble qu'on n'a pas à être au courant de votre intimité. Voilà. Vous n'êtes pas mariés, pour nous, ça fait passer un moment. Et quelque part, il nous semble important aussi que pour votre liberté, que, voilà. Maintenant, vous serez compris, vous ne serez pas compris. Ça, je pense qu'il faut renoncer à. Mais en tout cas, je pose la question aux jeunes, où est-ce qu'a été votre discernement? Vous êtes ensemble, ok, mais où est-ce que ça a été votre discernement? Est-ce qu'il y a eu un moment donné. Bien souvent, et encore plus, j'allais dire, dans des couples qui se reçoivent les paroisses, parce que bon, ceux que je reçois, c'est un peu particulier, bon, mais les couples qui reçoivent les paroisses, c'est vraiment le tout venant, c'est la première fois qu'on leur pose des questions. C'est la première fois que quelqu'un, un tiers, pose des questions à leur couple. Moi, je me méfie des non-choix. Une série de non-choix, ah oui, on s'aime, on ne va pas payer de loyer, on ne va pas payer ça, on est ensemble, et puis bon, finalement, oui, on est ensemble, mais finalement, il y a un enfant qui arrive là-dessus, puis ah oui, ben, si on se marie, etc. C'est que des non-choix. C'est que des non-choix. Je dis, mais oui, c'est vrai. Et la première fois où on leur demande de choisir, c'est quand ils se préparent au mariage. On leur pose des questions. Donc, je trouve aussi, soyez attentifs là-dessus, à pouvoir leur poser des questions, etc. Quelques conseils pour guider ses enfants, respecter le corps, on a parlé de ça. Voilà, oui, la question de ça, respecter le corps, etc. Je suis quand même effaré du niveau presque zéro que d'éducation sexuelle que vous avez donné à vos enfants. Je pose la question. J'ai tout un questionnaire qui a été fait par les frères de Saint-Jean, là, la paroisse à Boulogne-Billancourt, etc. Donc, très développé. Je trouve ça très bien. J'utilise ça depuis tout le temps, 10 ans, 15 ans maintenant. Et qu'est-ce que vous avez reçu en termes d'éducation sexuelle? Voilà, c'est grand moment de solitude. Rien. Il y a eu les cours de SVT. Il y a maman qui m'a filé comme ça en rougissant un bouquin, comme ça en regardant ailleurs. Il y a les copains, bon, les copains, les copines, bon, les vidéos, voilà, aussi. Quelle parole vous avez eue au moment de la puberté, au moment, voilà, la jeune fille a ses règles, etc. Quelle parole vous avez eue? La beauté, le sens de l'engagement. Alors, du coup, vous dites, oui, mais le corps, respectez le corps, etc., mais vous n'avez jamais eu de parole. Aussi peu. Aujourd'hui, ce n'est pas votre parole qui comptera le plus, ça c'est évident, vous avez déjà aperçu. Donc je trouve que c'est important, c'est vrai, de se préserver, etc. Mais s'il n'y a pas eu cette éducation à la beauté de l'art, et aujourd'hui, grâce à le discours de Jean-Paul II sur la théologie du corps, on a vraiment des mots. L'Église a maintenant des mots pour dire les choses d'une beauté de la sexualité qu'elle n'avait pas pendant des siècles. Elle a quand même la culpabilisé, c'est pécamineuse, voire sale, etc., etc. Bon, il faut se relever de siècles de négativité. Et maintenant, on a les mots, etc. Progressivement, ça arrive dans les foyers, dans les séminaires, bon, avec toute la vision de Jean-Paul II sur cette question-là. Mais du coup, je trouve que c'est. Mais du coup, vous vous formez, vous dites oui, mais pourquoi ça? Pourquoi pas? Bon, donc, par exemple, le corps engage la personne. Hein? Le corps à corps, son cœur à cœur. Donc, du coup, c'est-à-dire que quand tu es déjà, c'est ce que disait Jean-Paul II, le corps, c'est le langage le plus fort. C'est évident. Hein? Il parlait de l'intimité des époux comme du corps du Christ livré sur la croix. Il fait le rapport entre les deux. Le corps, c'est le langage le plus fort. Donc, du coup, bon, c'est intéressant de pouvoir. Le conjoint de la future femme de mon fils a déjà une fille. Comment doit-on l'accueillir? Alors, ça, c'est un point important. Quand l'autre a déjà ou a été marié ou a eu un enfant ou pas marié mais a été en couple, etc., un enfant. Là, du coup, il m'arrivait bien un certain nombre de fois de préparer. Là, en ce moment, je le fais. Il y a couple, lui, il a eu trois enfants d'une précédente union, ils ont obtenu la nullité, lui a obtenu la nullité, etc., mais il y a trois enfants. Je lui dis, vous êtes un couple qui se forme dans une famille. C'est pas, vous ne serez jamais que deux. Vous ne serez jamais que deux. Parce qu'il y aura l'enfant du conjoint, là, on parle d'une petite fille, de la future belle-fille, hein, il y aura le papa, cette fille a bien un père, quelque part dans la nature en tout cas. Hein, donc du coup, il y a le père. Déjà, on parle déjà de, avant tout mouvement, trois, quatre personnes, avant tout mouvement. Vous n'êtes pas que deux. Du coup, comment est-ce que, évidemment, la manière de préparer au mariage là-dedans, de l'accueillir, ben, elle viendra, cette maman viendra avec sa fille. Bon, ah oui, je pense que c'est pas le sujet. Ben, vous l'accueillerez comme vous pourrez. Voilà, mais cet enfant-là n'est pas votre petite fille. Et du coup, moi j'interroge, je veux dire aussi, c'est pas anodin. Quand ils auront des enfants de leur union à eux, votre fils et sa future femme, ils auront des enfants de leur union à eux, ils verront la différence de la manière dont ils sont accueillis, les enfants. De votre sang, j'allais dire, des petits-enfants de votre sang, la petite fille qui n'y peut mais et qui vient d'une précédente union. C'est pas sa faute, elle est là, voilà. Donc, du coup, je dis, faites attention, c'est quelque chose de complexe, c'est pas impossible, mais vous rentrez dans une démarche complexe. Vous, comme parents et de fait grands-parents, parce que parfois il y a des liens, est-ce que la famille d'elle est encore présente? Est-ce qu'au fond, le lien ne va pas plus se faire avec vous, alors que vous n'avez pas de sang commun qu'avec sa propre famille? Cette petite, elle va peut-être plus se retrouver, peut-être qu'il y a plus de stabilité, j'en sais rien, je ne connais pas le cas particulier. Du coup, voilà, aujourd'hui, on peut être père sans être voilà, il y a des gens, des pères qui ont éduqué des enfants, et c'est pas ils n'ont pas de rapport de sang avec, parce qu'ils les ont eu tout petits, puis ils les ont éduqués, puis. Voilà, il les appelle parce que le père, le vrai père, le géniteur est dans la nature, il n'a jamais pris ses responsabilités. Et il dit, mais je m'appelle papa, etc. Et ma fille, je la conduirai, c'est ma fille, je la conduirai à l'hôtel. Ils ne sont pas adoptés non plus, etc. Donc du coup, c'est. En tout cas, d'être attentif, de dire, il y a un enjeu que cette jeune femme qui arrive avec une petite fille, avec des enfants, arrive dans une certaine situation de fragilité, d'une certaine manière, par rapport à vous, à votre. Et du coup, bon, d'être attentif, comme pour toutes les personnes fragiles, voilà. Comment expliquer aux parents qu'il est bon et normal d'être déloyal, ce n'est pas un manque d'amour? Oui, d'accord. Comment être déloyal, ce n'est pas un manque d'amour? C'est vrai, alors, quelque part, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des choses où vos enfants vous décevront. Mais ce n'est pas un manque d'amour. C'est-à-dire que ils feront des choix, je l'évoquais rapidement, ils feront des choix qui ne sont pas vos choix. Comme vous avez fait des choix qui ne sont pas le choix de vos parents et vos parents. Vous avez fait d'autres choix. Il y a des choix, ben voilà. Donc, alors si vous avez eu la difficulté à être accueilli par vos parents, et vos choix, vos propres choix, au niveau de la foi, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau, etc. Parce qu'ensuite, la question se rejoue au niveau de l'éducation des enfants. Là aussi, il faut être très délicat, je veux dire. Attention de ne pas se mêler de l'éducation de ces petits-enfants. On parle des petits-enfants. Donc, voilà, donc ils feront des choix qui seront autres. Accepter l'autre comme autre. Il y a des choses que vous désapprouverez. Bon. Voilà, vous ne comprendrez pas. Parce qu'il y a aussi une génération, mine de rien, entre les deux. Il y a 30 ans entre les deux, donc c'est vraiment une génération. Voilà, il y a des choses, c'est accepter, mais ce n'est pas forcément un manque d'amour. C'est là où je pense que c'est important, c'est que le fait de choisir ou de faire des pratiques qui ne sont pas les vôtres, ce n'est pas contre vous. Soyez attentifs à ça, ce n'est pas le rejet de votre propre éducation. Attendez, les jeunes ont peur de s'engager. Les jeunes ont peur de s'engager, peut-on les aider? Attention, oui. Alors moi, j'ai deux coups de fil des parents, surtout qu'ils ne se marient pas. Donc, premier coup de fil des parents, surtout qu'ils ne se marient pas. Deuxième coup de fil, surtout qu'ils se marient. Donc, c'est un peu les deux. Donc, peur de s'engager, là vous allez vraiment vous rester. Vous pouvez dire, avoir peut-être un petit mot, mais vous restez, mieux vous rester en deçà que d'aller au-delà. C'est-à-dire que bon, vous estimez que oui, ça pourrait le faire, c'est vrai, pourquoi l'autre ne s'engage pas, et pourquoi. Moi, je me rappelle les parents que j'ai eu il y a quelques temps, etc. Mais lui, il a sabordé la relation devant moi. Je veux dire, venu en retraite, devant moi, il a sabordé la relation. Je lui ai dit, mais écoutez, moi, je reprends ses propres mots. Oui, mais j'aurais pu l'encourager. Mais non, je suis en quoi? C'est pas moi qui me marie, ça ne vous aura pas échappé. Donc, du coup, voilà, donc peut-on les aider? Pas beaucoup. Là-dessus, pas beaucoup, je pense. Que faire, que dire, comment faire lorsque l'on est sérieuse? Réserve sur la famille, sur la fiancée. Oui, réserve sur la fiancée. Sur la vie, on va voir. Oui, bah. Alors, je pense que s'ils peuvent faire une retraite, c'est pas mal. Du coup, ou se faire accompagner, ou de dire aussi vos réserves. C'est délicat, parce qu'ensuite, s'ils se marient, c'est chaud, hein. J'ai eu un cas où c'était pire. Ils se sont séparés, les enfants, les parents disent, ah, moi, je te félicite de te séparer. Finalement, ils se sont remis. Donc tout ce qu'ils avaient dit au moment de la séparation, ils ont dû assumer, finalement ils sont mariés. Donc du coup, c'était un peu compliqué à gérer, mais vous pouvez dire, ben, ça vous paraît ceci. Là ça peut être plus intelligent, c'est les frères et sœurs. Les frères et sœurs sont beaucoup, c'est beaucoup au niveau, c'est, on n'est pas dans le hiérarchique, on est dans la fratrie. Vous dites, bon, qu'est-ce que tu fais là, etc. Dingue, une liberté de parole, ou alors, voilà. Donc, maintenant, est-ce que, objectivement, c'est une personne, c'est une mauvaise personne, est-ce que c'est une, ou est-ce que c'est pas la personne que vous avez rêvé, toujours la même chose. Hein, donc, voilà, mes amis, est-ce qu'il y a d'autres questions, donc, qui sont peut-être. Je ne veux pas trop tarder, etc. Donc, du coup, Le père Bernard patiemment attend donc avec Olivia un livre que j'ai écrit sur la préparation au mariage, se marier et durer. Et puis il y a un livre sur la question du discernement, SUSL. Donc où là je reprends un peu toutes les étapes de la retraite, en fait, ce que j'aborde en retraite, avec beaucoup d'exemples et des travaux pratiques à la fin du livre. Ah, d'accord, ok, merci. Alors les mains. D'accord, ok. Ok. Ah oui, oui. Alors quand un des parents n'est pas présent, oui, ça c'est vrai, ça c'est compliqué, ça. Voilà, oui, il y a des familles où c'est abordé le sujet avec la maman. Bon. Si le conjoint ou l'ex-conjoint n'est pas présent, le papa de. Voilà. Je me rappelle, j'ai préparé un couple, j'ai célébré les noces, reçu leur consentement, etc. Le père d'elle dit. Ah non, non, Elle dit, mais je vais me marier des jours. Ah non, j'ai des travaux à faire dans, dans mon garage. Bon, ça fait longtemps elle a été éduquée par sa mère. Voilà, et le père s'est complètement désintéressé. Bon, je lui dis, écoute, ma fille, hein, non, te laisse tomber. Quoi. Qu'on a à ce niveau-là de goujaterie. Non, laisse tomber, là. Voilà, donc, vous imaginez pour une jeune fille, votre père vous dit, ah non, j'ai des travaux à faire dans mon garage. Non, mais c'est particulier. Hein, c'est... Donc voilà, parfois le couple, l'enfant, mais les autres, parce que les... Et parfois aussi, c'est mieux que les parents ne soient pas là aussi, mais les deux, parce qu'il y en a un qui est toxique, parce qu'il est compliqué, qui est... Je me rappelle comme ça, un couple, elle a été maltraitée par une famille, pourtant bien sous tout rapport, etc. Maltraitée par son père, injonction d'éloignement du juge, etc. Bon, gros truc. Bon, ben, du coup, le père n'était pas là le jour du mariage, ça a été clair. Et il n'avait pas dit, non, ce sera pas elle, ce sera mon parrain, je ne sais pas qui l'a conduit à l'hôtel, la conduite à l'hôtel, mais bon, c'était quelqu'un d'autre, qui était important pour elle, etc. Et, voilà, bon. Maintenant, c'est vrai que ça questionne la place du. Le fait qu'il y ait un parent manquant, comme ça, mais qui est là, qui est vivant, je ne parle pas du décès, qui est vivant, mais qui n'est pas là au mariage, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose, par exemple, de en quoi. Quel rôle cette jeune fille a eu avec son père? Qu'est-ce que. Comment elle voit comment elle verra son futur mari comme père? Des choses comme ça, c'est est-ce qu'il y a des blessures là? Est-ce qu'il y a un manque de confiance dans les hommes? Bon, c'est ce mari, on pense que non, mais est-ce qu'elle est prête à donner assez de place à son futur conjoint pour à occuper aussi et devenir père de ses enfants et l'accueillir? Voilà, c'est. Maintenant, aborder le sujet, non, parce que c'est tellement clair qu'il n'y a même pas besoin de l'aborder. L'autre n'est pas là, il n'est pas là, voilà. On ne va pas mettre les gens dans la gêne. Sauf qu'il y a aussi du cœur à avoir. On ne va pas appuyer là où ça fait mal. Il voit vous arriver une famille unie, etc. Et l'autre n'est pas là. Bon. Voilà, mais ce ne sera pas sans conséquence. Ce ne sera pas sans conséquence. Hein. Ça, je pense que la personne qui s'absente, etc., comme le père, là, je vous ai dit, ce ne sera pas sans conséquence. Hein. C'est-à-dire que, clairement, mais du coup, il y a dans ces cas-là, il y a des familles, des jeunes qui s'adossent à la famille qui est le plus solide. Souvent, j'ai vu ça. Qui prennent leur belle-mère, le papa, leur beau-père, vraiment pour des personnes, voilà, pour un soutien. J'ai souvent vu ça. C'est parce qu'on sent, voilà, là, il y a un peu de solidité, mais je m'accroche là où il y a de la solidité.